VOA Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Jean-Roger Billon à ce micro pour Le Monde aujourd'hui, au sommaire de cette édition du jeudi 9 novembre 2023. Ouverture en Turquie du procès pour l'assassinat de Dina Bongo Ibuanga, étudiante gabonaise de 17 ans, tuée à Karabük.
La personne qu'elle a montée, qui était à côté de la à proximité d'elle, c'était Olivia.
Olivia qui était
la dernière personne qu'on a vue, que notre fille nous a montré le téléphone.
Guy Serge, le père de Dina Bongo Ibuanga, à suivre dans un instant. Au Soudan, les combats au Darfour s'intensifient et des corps de personnes en uniforme militaire jonchent les rues d'Omdurman, la ville jumelle de Khartoum. En Éthiopie, l'armée fédérale a repris ce jeudi le contrôle de la Libéla après une brève occupation de la ville sainte par des miliciens. Israël a accepté de faire des pauses quotidiennes de 4 heures dans le nord de Gaza, annonce la Maison Blanche. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Le procès pour le meurtre de Dina Bongo Ibuanga, une étudiante gabonaise de 17 ans, s'est ouvert à Karabük, dans le nord de la Turquie. Le seul accusé, un homme de 55 ans, est soupçonné d'avoir assassiné la jeune fille avant de jeter son corps dans une rivière. Sa famille soutient qu'elle était harcelée. Yacouba Ouedraogo a joint à Libreville le père de Dina, Guy Serge Ibuanga.
Les éléments proprement dits au jour d'aujourd'hui, d'abord, dès le départ, je crois que le tribunal de Karabük avait appréhendé huit prévenus. Mais au jour d'aujourd'hui, il n'y a qu'un seul prévenu, l'assassin principal qui est M. Dushin Akar. Donc, de nos jours, c'est le seul suspect numéro un. Mais seulement en étant en entretien avec les avocats féministes qui suivent effectivement le dossier du côté de la Turquie, plus précisément à Karabük, il y a des pièces manquantes dans le dossier. Le dossier n'est vraiment pas complet. Ça ne nous rassure pas.
Guy Serge Ibuanga, père de Dina Ibuanga, assassiné en Turquie. Nous retrouverons la famille, le père et la mère Ibuanga dans la partie magazine. Des combats sont en cours sur plusieurs fronts contre les rebelles du M23 au nord de Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo, et provoquent de nouveaux déplacements de populations paniquées, selon des témoignages recueillis ce jeudi. Et déjà hier, des affrontements dans le territoire de Masisi ont vidé de leur population plusieurs villages de la région de Kilo, à une quarantaine de kilomètres de la capitale provinciale. Selon des représentants de la société civile, plus de 3000 nouveaux déplacés étaient signalés dès mercredi soir dans la localité de Sake, où d'autres ont continué d'affluer. Au Darfour, les combats font rage. Des corps de personnes en uniforme militaire jonchent les rues d'Omdurman, la ville jumelle de Khartoum, la capitale. L'ONU s'inquiète de l'intensification des combats au 7e mois de guerre entre l'armée et les paramilitaires, peu après l'échec des derniers pour parler à Jeddah en Arabie Saoudite. Les précisions de John Lindon.
Les violents affrontements se poursuivent à Khartoum, dans sa banlieue et au Darfour, alors que le dernier round des discussions parrainé par l'Arabie Saoudite et les États-Unis s'est achevé cette semaine sans aboutir à un cessez-le-feu. Des corps de personnes en uniforme militaire gisent dans les rues d'Omdurman après les combats d'hier, ont déclaré des témoins. D'autres rapportent qu'un obus est tombé sur un hôpital tuant un personnel de santé. L'ONU s'est inquiété de la situation humanitaire au Darfour. Le coordinateur humanitaire adjoint de l'ONU a laissé entendre que des centaines de milliers de civils et de déplacés sont en grand danger à El Fasher, chef-lieu du Darfour Nord. L'ambassade des États-Unis a exprimé de son côté sa grande préoccupation face aux témoignages faisant état de graves violations des droits de l'homme commises par les forces de soutien rapide au Darfour.
L'armée fédérale éthiopienne a repris le contrôle de la ville sainte orthodoxe de la Libéla dans l'état de l'Amara après le départ des miliciens qui s'en sont emparés la veille. Les précisions avec Dili Diko.
S'exprimant sous le couvert de l'anonymat, un diacre de la ville de la Libéla, mondialement connu pour ses églises médiévales taillées dans la roche, a indiqué avoir assisté aux funérailles ce matin de 16 policiers tués dans les combats. Aucun bilan officiel des affrontements n'est disponible pour l'instant. Les 11 églises monolithiques datant du XIIIe siècle, inscrites sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO et qui attirent pèlerins et touristes internationaux, n'ont pas subi de dégâts directs, a assuré le diacre. Cependant, les vols de et vers La Libella, suspendus mercredi, le sont toujours jeudi, selon le site de la compagnie nationale Ethiopian Airlines. L'armée fédérale contrôle la ville. Les miliciens d'autodéfense Amara Fano sont partis tôt ce matin, a ajouté le diacre. Les Fano, milice informelle Amara, composée de volontaires, ont épaulé l'armée éthiopienne durant les 2 ans de conflit dans la région voisine du Tigré.
Le déploiement dans le cadre d'une mission soutenue par l'ONU d'un millier de policiers kényans en Haïti plongés dans le chaos et la violence ne se fera qu'avec un financement des États membres de l'organisation internationale, a affirmé aujourd'hui le ministre de l'Intérieur du Kenya. Selon Kithure Kindiki, le budget global pour le déploiement des policiers pendant 1 an, qui vise à rétablir donc le calme dans ce pays des Caraïbes en proie à des gangs contrôlant des régions entières du pays, s'élève à 600 millions de dollars. La décision du gouvernement kényan de déployer des policiers en Haïti a suscité de nombreuses interrogations et critiques dans ce pays d'Afrique de l'Est. L'Afrique du Sud va déployer 3300 membres de l'armée pour lutter contre les activités minières illégales dans le pays, a annoncé aujourd'hui le bureau du président Cyril Ramaphosa. L'opération doit durer jusqu'à avril 2024 et devrait coûter à l'État l'équivalent de près de 25 millions d'euros, selon le président. Le pays riche en minerais attire des milliers de mineurs clandestins dont les activités perturbent les entreprises du secteur et sont vues par les habitants comme une source de criminalité.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Des milliers de civils ont encore pris le chemin vers le sud de la bande de Gaza où les combats au sol accompagnés de bombardements font rage. Israël a accepté d'instaurer des pauses militaires quotidiennes, a déclaré la Maison-Blanche. Alexandrine Ollonion nous en dit plus.
Israël va commencer à mettre en œuvre des pauses de 4 heures dans des zones du nord de la bande de Gaza chaque jour avec une annonce faite 3 heures avant, a déclaré à la presse John Kirby, le porte-parole du Conseil de sécurité nationale. Le directeur de la CIA, Bill Burns, et son homologue israélien, David Barnea, sont tous deux à Doha pour des négociations trilatérales avec les Qataris. Leur objectif est de régler les détails d'une éventuelle trêve humanitaire qui verrait la libération des otages et davantage d'aide entrant à Gaza, a dit un responsable sous couvert de l'anonymat. Environ 80 pays se sont réunis à Paris. C'est à la protection des civils qu'il nous faut travailler et pour cela il faut une pause humanitaire très rapide et œuvrer à un cessez-le-feu, a déclaré le président Emmanuel Macron. Les forces israéliennes mènent des combats au sol avec les militants du Hamas au cœur de la ville Gaza. Les deux camps ont déclaré s'être infligés de lourdes pertes dans de violents combats de rue. Le point de passage de Rafah entre Gaza et l'Égypte a rouvert ce jeudi pour permettre à un nombre limité de blessés et de détenteurs de passeports étrangers de fuir la guerre.
Le chef du Hamas palestinien, Ismaël Haniyeh, basé au Qatar, s'est entretenu ce jeudi en Égypte avec le patron du renseignement égyptien, le général Abbas Kamel, sur la situation à Gaza en pleine guerre entre son mouvement et Israël. Le chef du bureau politique du Hamas est en Égypte à la tête d'une délégation du mouvement islamiste. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a déclaré aujourd'hui que le ministre sud-coréen des Affaires étrangères Park Jin et lui-même partageaient de profondes inquiétudes quant à la coopération militaire croissante entre la Corée du Nord et la Russie. Les deux dirigeants ont également indiqué qu'ils avaient discuté de la possibilité de travailler ensemble à la mise en œuvre d'une stratégie de dissuasion élargie pour contrer les menaces de la Corée du Nord et à renforcer la coopération stratégique avec le Japon. Le premier ministre espagnol pourra continuer à gouverner grâce aux indépendantistes. Pedro Sanchez a obtenu l'appui du parti catalan de Carles Puigdemont et qui doit lui permettre d'être reconduit au pouvoir par le Parlement. En échange, il a accepté une loi d'amnistie controversée pour les dirigeants et militants indépendantistes. Par ailleurs, deux hommes circulant à moto ont ouvert le feu sur Alejo Vidal Quadras, l'ancien chef de file du parti populaire populaire espagnole en Catalogne, en plein cœur de Madrid, le touchant au visage, a déclaré la police. La Chine et les États-Unis ont assuré aujourd'hui que leur récente discussion sur le climat en amont de la COP28 de Dubaï était un succès. Un nouveau signe de la reprise du dialogue entre les deux pays. Les pourparlers se sont tenus en Californie avant une rencontre attendue la semaine prochaine entre le président américain Joe Biden et son homologue chinois Xi Jinping aux États-Unis. Et puis le syndicat des acteurs américains a annoncé hier soir avoir conclu un accord de principe avec les studios d'Hollywood, ce qui pourrait mettre fin à la deuxième des deux grèves qui ont interrompu la plupart des productions cinématographiques, télévisuelles et coûté des milliards de dollars à l'économie californienne. Voilà pour le journal, vous suivez VOA Afrique. À présent, la Minute Éco avec Nathalie Barge.
Au Togo, plus de 230 femmes du Grand Lomé ont bénéficié de 80 000 francs CFA chacune dans le cadre d'un projet d'autonomisation économique en lien avec la lutte contre les violences basées sur le genre, en partenariat avec le ministère de l'Action sociale et l'ambassade de France. Ces fonds leur permettront de développer des activités génératrices de revenus. 500 femmes bénéficieront de ce soutien financier lors de sessions de formation. Les journées de marché du Forum d'investissement en Afrique organisées par la Banque africaine de développement ont débuté hier à Marrakech. L'événement réunit sur 3 jours des investisseurs, chefs de gouvernement et responsables d'institutions de financement du développement. Le thème « Débloquer les chaînes de valeur de l'Afrique » ouvrira des discussions sur l'agriculture, les énergies renouvelables et l'industrie manufacturière. La Somalie a signé un accord cadre avec l'Union internationale des télécommunications lors du Forum régional de développement de l'UIT pour les États arabes qui s'est refermé hier à Manama, au Bahreïn. L'accord vise à soutenir le développement des technologies de l'information et de la communication. La Somalie a développé une stratégie nationale pour la 5G et l'interconnexion des réseaux télécoms.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacou. Bonsoir. Yacouba, on commence avec du football, avec la Ligue des champions féminines africaines qui se poursuit en Côte d'Ivoire.
Oui, les rencontres de la deuxième journée ont débuté hier. Le groupe B dispute ses matchs aujourd'hui à San Pedro. Après sa défaite d'entrée, l'AS FAR du Rabat, champion en titre, veut se relancer face aux Équato-Guinéennes d'Ourakan. Dans le deuxième match, les Maliennes de l'AS Mandé jouent contre les Ghanéennes d'Apem d'Ankoua. Hier, dans le groupe A, basé à Korogo dans le Nord, après leur début réussi, les Sud-Africaines de Mamelodi Sundowns ont battu le club marocain de Sporting de Casablanca 1-0. Les Sud-Africaines se qualifient ainsi pour les demi-finales. Bien avant, l'Atlético FC d'Abidjan s'est incliné devant les Tanzaniennes de GKT Queens 2-1.
Sofiane Diop en sélection marocaine pour la première fois.
Eh oui, le joueur de l'OGC Nice a été retenu pour la première fois en sélection marocaine pour des matchs éliminatoires en vue du Mondial 2026, selon la liste publiée par le sélectionneur marocain Walid Regragui. Ancien membre de l'équipe de France Espoir et de l'AS Monaco, Sofiane Diop, 23 ans, avait été sollicité par le Sénégal et le Maroc, pays de ses parents, mais a choisi de jouer pour les Lions de l'Atlas. Ça fait longtemps que sa décision est prise et c'est le moment. Il était blessé lors du dernier rassemblement, mais ce n'est plus le cas maintenant, a affirmé le sélectionneur marocain, qualifiant Sofiane Diop de joueur de talent. Le Maroc doit jouer ce mois-ci face à l'Érythrée et la Tanzanie dans le cadre des éliminatoires du Mondial 2026. Outre ces deux pays, le groupe E de la sélection marocaine comporte le Congo, le Niger et la Zambie. La liste n'est pas forcément celle des joueurs qui iront à la CAN, a précisé M. Regragui, alors que la Coupe d'Afrique des Nations débute le 13 janvier en Côte d'Ivoire.
Ici en NBA, Joel Embiid a dompté Boston.
Et oui, inarrêtable, les Philadelphia Sixers ont enchaîné un 6e succès consécutif dans le choc de la conférence Est face à Boston 106-103. Comme depuis le début de saison, ils ont pu compter sur leur MVP camerounais Joel Embiid, 27 points et 10 rebonds. Les Sixers n'ont plus perdu depuis une défaite d'un point en ouverture de la saison face à Milwaukee. Ils prennent ainsi la tête de leur conférence Est devant les Bucks et Boston. Dans l'autre match de la nuit dernière, le tenant du titre Denver a eu raison des Golden State Warriors 108-105.
et reste en tête donc de la conférence Ouest grâce notamment aux 35 points de Nikola Jokic. Milwaukee s'est imposé face à Détroit 120 à 118. Oklahoma City a battu Cleveland 128 à 120. Et puis San Antonio s'est incliné devant les New York Knicks 126-105.
Page de sport VO Afrique signée Yakuba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Le procès pour le meurtre de Jana Dinabongo Ibwanga, étudiante gabonaise de 17 ans, retrouvée morte dans une rivière en mars dernier, a débuté hier à Karabük, dans le nord de la Turquie. Un seul accusé, un homme de 55 ans, était à la barre alors que plusieurs personnes avaient été placées en garde à vue. Yakuba Ouedraogo a joint à Libreville au Gabon Jessica et Guy Serge Ibwanga, les parents de l'étudiante gabonaise assassinée en Turquie.
Bon, les indices proprement dits, non. Mais seulement, ce que nous savions, nous, depuis ici à Libreville, nous communiquions en permanence avec notre fille, quelle que soit l'heure, parce que nous avions le wifi à la maison, elle là-bas, c'est aussi tranquille, donc nous communiquions à tout moment.
C'est dimanche, je voulais envoyer l'argent, parce que ça m'est dit déjà, cette réunion était déjà fermée. Donc dimanche, au moment où je vais envoyer l'argent, j'appelle quand même pour demander, mais depuis... Hier, je n'arrive pas à joindre Nina. Elle est où son téléphone à laquelle vous mettez? Ah, on cherche Nina. Depuis, je dis, comment ça? Pourquoi vous ne m'avez pas averti? Elle dit que non, vous êtes en train de chercher Nina. Elle n'a jamais fait ça. Et même pour aller dormir chez quelqu'un, elle ne peut pas dormir ailleurs sans m'avertir.
Jamais.
Jamais. Je commence à m'inquiéter. Et quelques heures après, on me fait comprendre que non, l'enfant a été retrouvé mort.
La dernière photo, pour essayer de compléter, la dernière image visuelle de son téléphone, elle était... Parce qu'on l'a vu un peu comme si elle était bizarre, comme si elle était droguée, comme si je ne sais pas. Donc on lui demande, mais maman, oui, mais qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air un peu fatiguée là. Qui est là avec toi? Qui est là avec toi? Elle nous montre le téléphone, elle met le téléphone à sa mère comme pour présenter la personne.
Elle n'a même pas eu le temps de...
Elle n'a même pas eu le temps de parler. Donc la personne qu'elle a montrée pour dire que, mais tu es avec qui? Tu parles avec qui? La personne qu'elle a montrée, qui était à côté de la à proximité d'elle, c'est cette Olivia.
Olivia qui
était à la dernière personne qu'on a vue, que notre fille nous a montré le téléphone.
Olivia, elle est africaine. Elle, en fait, elle n'était pas dans cette ville-là.
D'accord.
Je ne sais pas pourquoi elle s'est retrouvée ce jour-là dans l'immeuble même d'où Nina était avec ses frères.
Voilà.
Elle ne restait pas là. Bon, le témoin critique dit qu'il entendait les cris, comment la petite Nina criait au sous-sol. Elle criait fortement. Donc, ça signifie que...
Elle se débattait.
Elle voulait sortir.
Elle voulait sortir.
Mais il y avait des gens qui l'empêchaient de sortir.
Voilà.
Selon ses dires. C'est ce qu'elle entendait. Effectivement, quand on allait au sous-sol, la police criminelle nous a montré par où Nina est passée. En fait, elle s'est enfuie. Non seulement elle a laissé un sapin de verre. On n'a même jamais retrouvé ça.
Sapin de verre optique.
On n'a jamais retrouvé ça. Elle a sauté les barrières de 2 mètres.
Sans chaussures.
Donc, c'est qu'elle était poursuivie. En fait, tout s'est passé au sous-sol.
Voilà.
Donc, nous, on s'est dit pourquoi. C'est vrai, elle n'a pas eu. Je ne sais pas si elle dit qu'elle ne voit pas le lien qui se passe entre passer d'inaforme et sous-sol et le film à terre. En fait, il n'y a pas de lien. Il n'y a pas de lien. Donc, ils ont fermé cette page-là.
Voilà.
Ils ont juste présenté le seul coupable, c'est le film à terre. C'est vrai. Il est le seul, mais il n'est pas seul.
Il n'est pas seul.
Nous, on a foi en Dieu.
Jessica et Guy Serge Ibwanga, les parents de l'étudiante gabonaise assassinée en Turquie.
VOA Afrique, en direct de Washington.
Abidjan, la capitale de la Côte d'Ivoire, accueille demain 10 novembre une conférence internationale sur la gouvernance et la communication. Selon les organisateurs, une communication efficace et une gouvernance transparente dans le secteur public sont essentielles pour le progrès démocratique de l'Afrique à une époque où les progrès technologiques sont rapides. Alexandre Nolognon a joint Kwame Senou, fondateur de l'Institut TOP, cheville ouvrière de la rencontre de demain.
Le premier rôle que la communication joue est de convaincre. Puisque les gouvernements travaillent en mettant en place des politiques publiques, ils ont sans cesse besoin de l'assentiment du public, surtout dans les démocraties qui s'opposent aux autocraties, où c'est la volonté du leader tout qui s'impose. Dans un régime démocratique, le public doit être d'accord, notamment à travers les élections et à travers la confiance témoignée au leader. Et donc, pour que le public soit d'accord, il est important de convaincre ce public à travers des initiatives de communication. Et nous allons, au cours de la conférence, passer en revue plusieurs aspects. Premièrement, les marques publiques. En quoi est-ce que créer une identité, un narratif public clair et distinct permet aux populations de connecter au message du gouvernement? Deuxièmement, nous allons passer en revue les données. Nous observons beaucoup que les données ne sont pas utilisées dans la planification de la communication publique. Nous parlerons également de la technologie, comment la transformation digitale peut rapprocher le service public du citoyen, peut permettre au gouvernement d'interagir avec le citoyen et récupérer des feedbacks et des avis en temps réel. Nous parlerons ensuite des considérations culturelles. On ne le prend pas assez en compte, mais à l'intérieur du continent, il y a différentes cultures qui ne s'opposent pas, mais qui se complètent et qui ont besoin d'être prises en compte dans la nature de la communication. Et enfin, nous parlerons des crises, qu'elles soient économiques, politiques ou même médicales, comme nous avons pu le voir il y a quelques années.
Quel est le public cible de cette conférence et comment espérez-vous qu'il bénéficiera de cette conférence?
Ce sont des praticiens qui sont en charge de la communication au sein de gouvernements, au sein d'agences publiques, au sein d'entités publiques, mais encore plus intéressant, au sein d'organisations régionales, en ce moment où nous parlons d'intégration sur le continent. Ce que nous espérons, c'est que les interventions de praticiens et d'experts expérimentés pourront former une source d'inspiration et une somme d'enseignement. Et à cet effet, nous avons la présentation introductive qui est donné par Alex Aiken, qui est le directeur exécutif des communications du gouvernement britannique, qui a une très grande expérience en matière de communication publique centralisée, qui vont inspirer nos participants et surtout leur donner envie d'améliorer la démarche qui, elle, est quelque peu discutable parfois.
Kwame Senou, fondateur de l'Institut TOP, The Holding Opinion and Public en Côte d'Ivoire.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, VOA Afrique, 24 heures sur 24.
La BAD, la Banque africaine de développement, organise un forum sur les investissements africains de 3 jours à Marrakech au Maroc avec la participation des États-Unis pour comprendre l'engagement stratégique de Washington pour le développement économique en Afrique. Eric Manirakiza a joint Johan Schmonsis, porte-parole de langue française du département d'État et le directeur du Centre médiatique régional pour l'Afrique.
Les États-Unis jouent un rôle très important dans la banque comme bailleur de fonds et aussi pour aider à planifier les projets de la banque. En fait, ici, pendant ce forum, un des sujets, un des objectifs clés, c'est de promouvoir et faire avancer les projets qui sont financés par la banque. Et les États-Unis jouent un rôle dans ce processus de planification.
Quelles sont les principales priorités stratégiques des États-Unis en matière d'investissement en Afrique et comment cela se reflète-t-il dans leur participation à ce forum?
La stratégie des États-Unis dans ce forum est vraiment axée sur la réalisation qu'il y a un écart infrastructurel en Afrique qui empêche la croissance économique africaine. Le gouvernement des États-Unis essaie de s'adresser à ce problème. En fait, la stratégie principale dans laquelle on essaie de s'adresser à ce problème, c'est l'approche des corridors en Afrique, des corridors commerciaux. On a parlé beaucoup récemment du travail du gouvernement américain sur le corridor Lobito, qui va lier la Zambie, Angola et la République démocratique du Congo. Mais ça fait partie d'une stratégie plus large de faire un corridor transafrique, en fait, pour lier les côtes de l'océan Indien vers l'Atlantique, de Mozambique vers Angola, et pour promouvoir des exportations africaines vers le monde.
Face à la concurrence chinoise et russe croissante, comment les États-Unis prévoient-ils de différencier et de renforcer leur approche envers les investissements en Afrique?
La distinction principale entre l'approche américaine et l'approche de quelques autres pays, c'est que l'approche américaine vise à combler les besoins des peuples africains par promouvoir la croissance économique de façon large sur le continent, partout dans le continent, aussi de lier les économies africaines l'une avec l'autre, les encourageant l'intégration économique régionale partout dans le continent. Et nos activités ici sur le continent envisagent un objectif, et cet objectif, c'est le développement économique du continent, non seulement l'exploitation des ressources.
Johann Schmonsies, porte-parole de langue française du département d'État et le directeur du Centre médiatique régional pour l'Afrique. Le troisième débat présidentiel républicain s'est tenu mercredi à Miami, en Floride, avec moins de candidats que lors des débats précédents. Ils ont tenté de se distinguer les uns des autres et du favori Donald Trump en abordant plusieurs questions internationales. Caroline Presutti, correspondante principale de la VOA Washington, nous présente les grandes lignes. C'est avec la voix de Michel Joseph.
Le troisième débat des candidats à l'investiture du Parti républicain pour l'élection présidentielle diffusé sur NBC a été dominé par la politique étrangère. Interrogé sur le conflit entre Israël et le Hamas, voici ce qu'il dirait au premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Le gouverneur Ron DeSantis, candidat républicain.
Finish the job once and for all.
Finissez-en une fois pour toutes avec ces bouchers, le Hamas. Ce sont des terroristes. Ils massacrent des innocents. Ils anéantiraient chaque juif sur la planète s'ils le pouvaient.
Le sénateur Tim Scott, candidat républicain.
On ne peut pas négocier avec le mal. Il faut le détruire.
Nikki Haley, candidate républicaine.
There would be no Hamas without Iran.
Il n'y aurait pas de Hamas sans l'Iran. Il n'y aurait pas de Hezbollah sans l'Iran. Il n'y aurait pas de Houthis sans l'Iran. Et qui finance actuellement l'Iran? La Chine achète du pétrole à l'Iran. La Russie obtient des drones et des missiles de l'Iran. Et il y a une alliance impie.
Seuls 5 candidats se sont qualifiés pour le débat. Chacun d'entre eux a eu le double du temps de parole par rapport au débat précédent. Concernant l'aide pour l'Ukraine, quelques divergences émergent. Chris Christie, candidat républicain.
Ce n'est pas un choix. C'est le prix que nous payons pour être les leaders du monde libre.
Vivek Ramaswamy, candidat républicain.
Ukraine is not a paragon of democracy.
L'Ukraine n'est pas un modèle de démocratie. C'est un pays qui a banni 11 partis d'opposition. Il a regroupé tous les médias au sein d'une télévision d'État. Ce n'est pas démocratique.
De nouveau, Nikki Haley, candidate républicaine à l'élection présidentielle.
Nous savons tous qu'un demi-million de personnes sont mortes à cause de Poutine. Et voici un pays épris de liberté pro-américain qui se bat pour sa survie et sa démocratie.
Le fentanyl arrivant par la frontière sud, le gouverneur Ron DeSantis a déclaré qu'il irait plus loin que ce qu'a fait Donald Trump durant son mandat. Absent de cette scène, comme pour tous les débats, était le favori républicain. L'ancien président a tenu son propre rassemblement à environ 16 kilomètres de là, à Hialeah, en Floride, où la population hispanique est importante. Jennifer Lawless, présidente du département de politique de l'Université de Virginie, estime que ces candidats ne battront jamais Trump dans les sondages.
Avec Donald Trump dépassant largement les 50% dans de nombreux sondages et plus de 40% dans la plupart des autres, aucun candidat n'est même proche du deuxième. Mais si quelque chose devrait arriver et que Donald Trump soit en prison, soit incapable de se présenter ou soit forcé d'abandonner la course pour diverses raisons légales, celui qui est en deuxième position a l'avantage.
Le temps pour le faire se réduit. Les électeurs éliront un nouveau président dans un peu moins d'un an et le premier caucus de l'État aura lieu dans 2 mois.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro, à la mise en onde Michel Joseph. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.